son allocution et je donne la parole à Frédéric Mitchell, ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration des Bahamas.
Next year, this time, general election.
Dans un an, des élections législatives auront lieu aux Bahamas. Cela signifie que c'est la dernière fois que je prends la parole devant cette Assemblée dans cette qualité. Cela a été un privilège pour moi depuis que j'ai pris mes fonctions en 2002. Je souhaiterais faire quelque chose de spécial cette année et j'ai l'honneur d'avoir parmi nous des collègues des Bahamas et notamment des dirigeants religieux et civiques de la communauté de Fox Hill que je représente, le révérend J. Carl Ramming et Madame Ramming, l'évêque Pinder et Madame Pinder, Monsieur Hartman Nixon et Madame Nixon, Monsieur Daniel Hall et Madame Hall et Monsieur Anderson et Cheryl Saunders. Je salue également le porte-parole de l'opposition pour les affaires étrangères, Monsieur Hubert Chipman, et son épouse. Voilà la politique du gouvernement des Bahamas. Dans toute la mesure du possible, il faut avoir un consensus multipartite sur les affaires étrangères pour qu'il y ait un transfert harmonieux et sans heurts des idées et des politiques entre les partis. Deuxièmement, les dirigeants sont ici parce que je voulais dire que contrairement à des discours qui sont tenus, les affaires étrangères ne représentent pas une discipline universitaire ésotérique. Il s'agit d'un exercice de vie réelle lié aux vies réelles des peuples des populations que je représente et de toutes les êtres humains ordinaires de par le monde. Je suis heureux qu'il soit là aujourd'hui. Monsieur le Président Jack Lew, le secrétaire au Trésor des États-Unis, dans une interview télévisée récemment, a parlé du fait de pouvoir avoir un compte en banque et de pouvoir faire des économies et du lien avec la participation des personnes ordinaires dans l'économie de son pays. C'était un message très parlant, mais dans les Caraïbes, où la tradition a été de fournir un compte bancaire au moment du baptême, il est devenu très difficile pour un enfant d'ouvrir un compte en banque et pour un adulte encore plus difficile, tellement que bien souvent l'on est découragé et que l'on n'a plus envie de rejoindre le système financier. Non seulement c'est un problème dans les Caraïbes, mais un ministre britannique m'a dit qu'un des hommes politiques proéminents en vue dans son pays, ne pouvait pas ouvrir un compte en banque pour sa fille de 12 ans parce qu'elle était trop exposée. C'est tout à fait erroné. Le problème de cette surrégulation imposée par l'OSCDE a mené à des conséquences inattendues et négatives. Soudain, être un homme politique ou être d'une famille d'un homme politique, cela signifie courir le risque de ne pas pouvoir jouir de services bancaires normaux de par le monde parce que les risques sont trop élevés. Ce n'est pas correct. Et je dis cela pour illustrer ce que tous les pays de la région de la CARICOM ont décrit comme le danger du ce que l'on appelle le de-risking. Pourquoi est-ce que je décris cela? Parce que cela fait partie d'un ensemble. Les banques dans le monde développant, notamment et surtout aux États-Unis, parfois refusent d'encaisser l'échec de certaines banques des Caraïbes parce qu'ils disent que les risques dans ces banques, le risque que l'on ne respecte pas ces règles est trop élevé et que le chiffre d'affaires n'est pas assez élevé. Donc les services ont été supprimés dans toute la région des Caraïbes. Et la même situation se répète aux Bahamas et dans toutes les Caraïbes où les millions de personnes venant des États-Unis et d'Europe se rendent chaque année. Et ces visiteurs, bien entendu, s'attendent à ce que tous ces services modernes soient disponibles au moment où ils arrivent sur notre territoire et au moment où ils se mettent sur la plage pour prendre le soleil. Ces territoires des Caraïbes sont décrits dans des brochures touristiques comme étant des paradis. Et ces territoires des Caraïbes sont traités comme si c'était un enfer à cause de ces règles financières. On utilise des expressions péjoratives comme des paradis fiscaux en imposant des règles injustes et des sanctions contre ces sociétés. Parfois, on empêche même des envois d'argent qui pourraient permettre de payer l'école ou les frais d'étudiants des Bahamas à l'étranger. En même temps, ces pays font l'objet de certaines pressions. Mais où est la compensation pour tout cela? C'est ce que nous nous demandons. Les Bahamas et les pays de la CARICOM n'ont pas une attitude illégale, aucun. Tous les accords ici sont respectés conformément aux règlements sur le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Ces attaques contre les Bahamas sont injustes et injustifiées. Les récentes attaques dans la presse concernant les services financiers des Bahamas sont tout à fait inacceptables et nous les rejetons. Normalement, on ne tente pas de présenter un cas moral ici, dans cette instance, mais il y a une équivalence morale qui est remise en question par les pays développés. Les pays développés disent que même si les lois existent concernant la protection de la vie privée et des biens privés, sans saisie illégale par un État, même si les États de la région sont indépendants et peuvent agir à leur guise, le fait que nos pays sont les banquiers pour ceux qui tentent de tirer profit de cette compétition est quelque part immoral à cause du fait que cela prive le monde développé d'un certain revenu. Ce n'est pas vrai tout cela. Le fait est que cette richesse accumulée à l'étranger retourne aux pays étrangers et profite à ces pays. Nous pourrions également dire qu'il y a un autre argument moral. Si les sociétés des Caraïbes s'écroulent à cause d'une surrégulation, alors le résultat de la destruction de millions de familles serait encore moral encore pire. Si vous dites qu'il est immoral de ne pas payer d'impôts chez vous, eh bien, nous allons vous dire que vous avez une responsabilité morale de comprendre que la surrégulation, le fait de changer les règles du jeu, eh bien, que cela aussi fait partie de tout cet ensemble et que tout cela a également un résultat immoral. Ce problème doit être résolu par ceux qui imposent ces réglementations. C'est un impératif moral. Monsieur le Président, Madame la Présidente, les Bahamas ont été heureuses de rejoindre les États-Unis et d'autres dans le réseau des océans sûrs, une initiative mondiale dont l'objectif est de combattre tous les aspects de la lutte contre la pêche illégale, notamment le fait de repérer ces cas et de poursuivre ces cas. Nous avons déposé mercredi les instruments pour adhérer à l'accord sur les mesures de la FAO pour empêcher ce type de pêche. Et nous avons tenté de poser notre candidature pour un deuxième mandat au Conseil de l'Organisation internationale maritime où nous avons une réputation de respect de normes très élevées en matière de sûreté, de sécurité maritime et de protection de l'environnement. Je vous demande d'apporter votre appui à notre réélection. Nous avons besoin d'un élargissement et d'une modernisation de certains indicateurs de financement du développement utilisés pour avoir ou atteindre un certain niveau de développement et pour couvrir certains besoins en matière de développement. Comme nous l'avons dit et comme nous continuons de le dire, le PIB par habitant ne devrait pas être le déterminant pour pouvoir profiter de l'aide économique internationale. Pour montrer l'importance que nous attachons à la promotion des femmes, Madame Marion Bettel a été présentée pour une fonction au comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, où elle a été élue au mois de mai. Nous pensons qu'elle va contribuer aux efforts de la CEDAW pour favoriser l'autonomisation des femmes et l'égalité hommes-femmes. Nous pensons que son expérience au sein de cet organe permettra d'améliorer la cause des femmes aux Bahamas. Un des problèmes majeurs, c'est de voir comment les jeunes hommes dans notre société vont pouvoir trouver des solutions. Bien souvent, dans le domaine universitaire, les jeunes hommes ont des problèmes pour survivre et pour pouvoir se préparer à la participation au sein de nos sociétés. Nous devons prendre des mesures en la matière. Deux jeunes hommes nous ont rejoints pour participer à cette manifestation. Et il y a également des jeunes femmes. Et je suis très fière de les voir parmi nous aujourd'hui. Donc, il y a un combat beaucoup plus large pour l'intégration de tous les jeunes, hommes et femmes, dans l'économie officielle. Les jeunes représentent l'avenir. Nous devons tout faire pour qu'ils comprennent ces processus et qu'ils soient vraiment inclus dans l'économie globale. Monsieur le Président, je suis heureux d'annoncer que les Bahamas se présente un siège au Conseil des droits de l'homme pour la période 2019-2021. Je vous demande d'appuyer notre candidature au Conseil des droits de l'homme. Madame la Présidente, notre pays compte 400 000 habitants. Nous connaissons chaque jour, nous enregistrons des incursions venant d'Haïti et de Cuba, des personnes qui arrivent en cherchant une vie meilleure. Ceci n'est pas durable et cela coûte beaucoup. C'est pourquoi nous coopérons avec Cuba et avec Haïti et les États-Unis, qui sont les lieux de destination de prédilection dans ce domaine. Et c'est une raison supplémentaire pour laquelle nous accordons beaucoup d'importance à la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba. Et nous appuierons l'appel à mettre fin à l'embargo commercial lorsque cette question sera abordée aux Nations Unies. Notre pays est heureux que des élections seront tenues en Haïti le mois prochain. Nous allons dépêcher des observateurs à ces élections. Nous en sommes très heureux. Nous souhaiterions remercier le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, pour sa direction, pour sa vision, ses efforts inlassables. Et nous lui souhaitons le meilleur dans ses entreprises futures. Madame la Présidente, nous sommes à la moitié de la décennie internationale des Nations Unies pour les peuples d'ascendance africaine. La région de la CARICOM et les Bahamas appartiennent à la diaspora africaine. Durant cette décennie, nous avons vu un homme d'ascendance africaine devenir le chef du pays le plus puissant du monde. Des milliers de personnes aux Bahamas et dans les Caraïbes en ont été fiers et nous vous souhaitons le meilleur lorsqu'il aura terminé son mandat. J'aimerais rappeler qu'il y avait une photo d'un petit garçon noir dans le bureau ovale des États-Unis et le président était en train de se pencher pour que le garçon puisse toucher ses cheveux. Le petit garçon voulait être sûr que quelqu'un comme lui, avec les mêmes cheveux, était vraiment le président des États-Unis. C'est dans ce contexte que les personnes d'ascendance africaine connaissent des situations très difficiles de par le monde. Des milliers de petits garçons noirs, des petites filles noires dans les Bahamas se sont inspirés des succès du président des États-Unis. Les tirs de policiers maintenant ne devraient pas continuer à égratigner l'image de ce pays. Nous pensons qu'il est extrêmement important que notre grand voisin comprenne que lors de ces décennies, il faut faire la chose adéquate. Monsieur le président des États-Unis a affirmé qu'il croyait en une démocratie libérale. Nous appuyons cette position. Tous les pays de la CARICOM, notamment les Bahamas, sont des exemples très frappants, sans aucune exception, de démocratie libérale, un pluralisme idéologique, des économies capitalistes, des États multipartites où il y a des élections à intervalles réguliers, des systèmes judiciaires indépendants avec des niveaux très bas de corruption institutionnelle et des consultations publiques à intervalles réguliers sur les politiques. Cet organe mondial, c'est ce monde développé doit comprendre ce que traversent les sociétés de la CARICOM pour pouvoir survivre. Et Michael Manley l'a dit il y a des décennies, trois postes trois popes, Jean-Paul, le pape Benoît et le pape François, se sont mis d'accord sur le capitalisme doit fonctionner avec une conscience morale. Nos pays tiennent compte de cela, les valeurs chrétiennes de la tolérance et du respect pour la sainteté de l'individu et pour l'état de droit. Des millions de touristes se rendent dans la région et peuvent en témoigner. Donc, j'en termine là où j'ai commencé, les questions de changement climatique et du risque. Avec tous ces avantages dans la colonne des choses positives, pourquoi est-ce que l'on insiste sur la colonne des moins? Pourquoi est-ce que l'on minimise les réalisations de ces pays? C'est tout à fait indéfendable sur le plan juridique et moral. Nous sommes petits, nous n'avons pas d'armée pour imposer des résultats, nous ne pouvons pas obliger à avoir des résultats, mais pour paraphraser un juge américain, nous avons simplement notre voix, et avec cette voix, nous disons aujourd'hui, le cri moral pour de l'aide, c'est la demande morale pour être sauvé. Les Nations Unies, c'est là où nous pouvons jouer et intervenir, c'est un forum adéquat pour présenter notre cause. C'est pourquoi cette question des banques, des services financiers, du changement climatique, du financement pour le développement, la migration ou la question de la survie, tout simplement. Les livres nous disent que les pauvres soient bénis, ils auront accès au royaume. Et ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, vous le faites à moi-même. C'est ce qui est dit aussi. En tant que représentant de ces derniers, nous allons utiliser notre voix morale pour dire, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin des Nations Unies. Merci beaucoup. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration des Bahamas de sa déclaration.